Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 22 août 2024. La police au Kenya offre une récompense pour toutes informations permettant d'arrêter Collins Jumaisi, un tueur en série présumé. Le Burundi a enregistré 171 cas confirmés du virus Mpox, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Santé. Ici aux États-Unis, un dernier jour aujourd'hui de la convention démocrate à Chicago, Kamala Harris acceptera solennellement l'investiture de son parti.
Welcome. Bienvenue à la troisième nuit. Et ce soir, c'est la liberté qui est à l'honneur. Freedom.
Nous reviendrons dans la partie magazine sur la troisième journée de la convention qu'a vu Tim Walz accepter officiellement d'être le colistier de Kamala Harris. En route pour Kiev, le premier ministre indien Narendra Modi prône le dialogue et la diplomatie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. En Éthiopie, 13 personnes, dont 5 civils, ont été tuées dans une attaque armée conduite par des assaillants non identifiés dans le sud du pays. Une force extrémiste a mené une attaque qui a duré 3 jours dans le district de Segen, dans la région de Konzo. Les assaillants ont tué 8 policiers et 5 civils, a dit un porte-parole des autorités locales. Les assaillants ont également volé des équipements hospitaliers et des véhicules officiels. Au Kenya, la police offre une récompense pour toute information permettant d'arrêter Collins Jumaisi, un tueur en série présumé qui s'est échappé d'un commissariat de Nairobi il y a quelques jours. Le point avec Nani Talani.
Une récompense financière importante sera remise à toute personne communiquant une information crédible permettant de conduire à l'arrestation du suspect Collins Jumaisi, a déclaré ce jeudi la direction des enquêtes criminelles sans préciser le montant de la récompense. Soupçonné du meurtre de dizaines de femmes, le jeune homme de 33 ans s'est évadé d'un commissariat dans la nuit de lundi à mardi avec 12 autres personnes, des Érythréens en situation irrégulière, en découpant le grillage métallique d'une petite cour de promenade. 5 policiers ont comparu mercredi en justice pour des soupçons de complicité dans cette évasion. Ils ont été libérés contre le versement d'une caution d'environ 1350 euros en dépit de la demande du procureur de les placer en détention pendant 14 jours. Collins Jumaisi avait été arrêté le 15 juillet, quelques jours après la découverte de corps enfermés dans des sacs dans une décharge dans le sud de Nairobi, non loin d'un poste de police. Qualifié de tueur en série, psychopathe et de vampire, il a avoué, d'après les autorités, avoir commis 42 meurtres de femmes entre 2022 et juillet 2024, le premier étant celui de son épouse.
L'ONU a annoncé l'entrée d'un convoi d'aide humanitaire mardi au Soudan via le point de passage frontalier d'Adrée entre le Tchad et le Darfour, rouvert pour 3 mois après 6 mois de fermeture. Les camions du PAM ont ainsi convoyé du sorgho, des légumineuses, de l'huile et du riz qui devraient bénéficier à quelques 13 000 personnes menacées de famine dans la région de Kérénik, dans l'ouest du Darfour, tandis que ceux de l'OIM étaient destinés à quelques 12 000 personnes, a affirmé le porte-parole de l'ONU. Le Burundi a enregistré 171 cas confirmés du virus Mpox, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Santé, après la découverte de premiers cas le mois dernier dans ce pays de l'Afrique des Grands Lacs. Claire Morin-Gibou.
Sur les 171 cas positifs confirmés, 137 sont encore actifs dans au moins 26 des 49 districts du pays, selon Polycarp Daïkeza, un des porte-parole du ministère de la Santé. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun cas de décès du Mpox au Burundi, a-t-il ajouté. Le nouveau variant du virus qui se propage actuellement en République démocratique du Congo est également celui qui se propage au Burundi, ont confirmé les autorités sanitaires burundaises. La recrudescence du Mpox en RDC, portée par un nouveau variant plus transmissible et plus mortel, est également apparue dans d'autres pays d'Afrique de l'Est, en Suède et en Asie, a incité l'OMS à décréter le 14 août une urgence de santé publique de portée internationale, l'alerte sanitaire du niveau le plus élevé. Le Mpox est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme, mais se transmet aussi via un contact physique étroit. La maladie provoque de la fièvre, des douleurs musculaires et des lésions cutanées.
La justice tunisienne a décidé aujourd'hui la remise en liberté de l'opposant Safi Saïd, un ancien candidat à la présidentielle qui avait renoncé au dernier moment à se présenter cette année et avait été arrêté mardi pour avoir franchi illégalement la frontière vers l'Algérie. Cet écrivain de 70 ans, critique de la politique du président Kais Saied, avait été condamné en juin à 4 mois de détention pour avoir falsifié des parrainages lors du dépôt de sa candidature à la présidentielle en 2014. Il avait de nouveau été candidat en 2019.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dernier jour de la convention démocrate à Chicago, le moment le plus important de cet événement de 4 jours, Kamala Harris va accepter sa nomination pour devenir la candidate démocrate à l'élection présidentielle du 5 novembre. Dilidico.
Après le discours d'acceptation de Tim Walz, ce sera au tour de Kamala Harris d'accepter officiellement sa nomination pour la présidentielle. Son discours va mettre en valeur le thème de cette 4e et dernière journée, centrée autour de l'avenir proposé aux Américains par le ticket Harris-Walz. Hier déjà, son colistier a martelé que Kamala Harris s'est toujours battue pour les libertés et les droits fondamentaux des citoyens. Il est attendu que Kamala Harris donne une place importante dans son discours à sa défunte mère d'origine indienne, venue aux États-Unis à l'âge de 19 ans. Issue elle-même de la classe moyenne, Harris a mis en avant dans sa campagne la nécessité de permettre aux Américains d'améliorer leurs conditions de vie et de faire face à l'inflation. L'une de ses promesses électorales est de mettre en place une interdiction des prix abusifs. Avant le moment culminant, le discours de la vice-présidente, de nombreux démocrates vont lui apporter leur soutien. Ce soir, ce sera l'occasion pour Kamala Harris de dire aux Américains pourquoi ils devraient voter pour elle. Les démocrates promettent une soirée aussi remarquable que les précédentes.
Les forces israéliennes ont continué d'avancer dans le centre et le sud de la bande de Gaza lors d'affrontements avec des combattants du Hamas, tandis que les autorités de santé palestiniennes ont déclaré ce jeudi que les frappes avaient fait au moins 22 morts dans l'enclave. La nouvelle escalade intervient quelques heures seulement après que le président américain Joe Biden a exhorté le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à conclure d'urgence un accord pour une trêve à Gaza pour la libération des otages. Ce sujet est au cœur des discussions marathon qui durent depuis plusieurs mois, mais Israël et le Hamas campent toujours sur leur position et leur demande. À Varsovie aujourd'hui, le premier ministre indien Narendra Modi a dit prôner le dialogue et la diplomatie pour mettre fin aux différends à la veille de son déplacement historique en Ukraine. Jacques Aristide.
Narendra Modi est le premier chef du gouvernement indien à se rendre en Ukraine et le premier en 45 ans à visiter la Pologne, une fidèle alliée de Kiev. L'Inde est fermement convaincue qu'aucun problème ne peut être réglé sur un champ de bataille, a-t-il dit aux côtés de son homologue polonais Donald Tusk. Nous soutenons le dialogue et la diplomatie pour rétablir la paix et la stabilité dès que possible. Et pour cela, l'Inde est prête à apporter toutes les contributions possibles avec ses pays amis, a ajouté le Premier ministre indien. Le chef du gouvernement polonais s'est réjoui quant à lui de la volonté de Narendra Modi de s'engager personnellement en faveur d'une fin pacifique, juste et rapide de la guerre. Nous sommes tous deux convaincus que l'Inde peut jouer un rôle très important et positif dans ce domaine, d'où l'importance de ces déclarations, d'autant plus que le Premier ministre se rendra à Kiev dans une douzaine d'heures, un déplacement qui peut également revêtir un caractère historique, a déclaré Donald Tusk.
La Cour suprême du Venezuela, que la plupart des observateurs considèrent comme inféodée au pouvoir, a validé aujourd'hui la réélection du président Nicolas Maduro, alors que l'opposition qui revendique la victoire avait déclaré nulle et non avenue toute décision de la haute juridiction sur le sujet. C'est Nicolas Maduro lui-même qui avait saisi début août le tribunal supérieur de justice pour faire valider sa victoire. La présidente de la Cour suprême avait rappelé lors d'une audience précédente que ses décisions étaient sans appel. L'annonce de la réélection du président socialiste pour un troisième mandat a provoqué des manifestations spontanées qui ont été brutalement réprimées. Elles ont fait 25 morts, 192 blessés et 2400 arrestations selon les autorités. Et puis, le gouvernement intérimaire du Bangladesh a annulé ce jeudi le passeport diplomatique de l'ex-premier ministre Sheikh Hasina, chassé du pouvoir après des manifestations sanglantes et qui a fui vers l'Inde début août. Une délégation de l'ONU est par ailleurs arrivée ce jeudi au Bangladesh pour déterminer s'il y a lieu d'enquêter sur les violations présumées des droits humains commises au cours des récentes manifestations. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Claire Morin-Zidou.
Les réserves d'or du Mali ont baissé de 17% entre 2022 et 2024, selon les données du ministère des Mines. Le Mali est l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique et le ministère des Mines n'a pas expliqué la raison de cette baisse des réserves. En novembre dernier, le Mali a signé un accord avec la Russie pour la construction d'une raffinerie d'or d'une capacité annuelle de 200 tonnes. Le deuxième plus gros diamant du monde a été découvert dans la mine de Karowe, dans le nord-est du Botswana. Cette découverte est due en grande partie à une technologie récente de détection par rayon X qui permet d'extraire de plus grosses pierres précieuses du sol sans qu'elles ne se brisent en morceaux. Le Botswana est l'un des plus grands producteurs mondiaux de diamants et le premier africain qui constitue sa principale source de revenus, soit 30% du PIB et 80% de ses exportations. Ici aux États-Unis, le nombre d'Américains demandant des allocations de chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, selon le département du travail. Le taux de chômage a augmenté pour le quatrième mois consécutif en juillet, mais il reste très faible à 4,3%.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le plan d'action de la CAF mis en place pour favoriser un développement stratégique optimisé du football africain.
Ce programme de la CAF vise à accroître l'efficacité et le professionnalisme dans le football africain, une vision qui se traduit par la progression remarquable du football africain ces dernières années. Un total de 23 secrétaires généraux des associations membres de la CAF et des unions zonales participent à ce programme qui fournit les outils essentiels à la croissance stratégique du football sur le continent. La première phase est tenue en ligne du 19 au 22 août. Sera suivi d'une session finale à l'Université du Cap en Afrique du Sud du 1er au 7 septembre 2024. Durant 20 jours, des experts du milieu académique et sportif reconnus pour leurs compétences animeront des modules couvrant la planification stratégique, la gestion opérationnelle et financière, le droit et la gouvernance ainsi que le marketing et le sponsoring, avec pour objectif de renforcer les capacités des dirigeants du football africain.
Tour d'Europe des stades, départ en Angleterre.
Tous les grands clubs de la Premier League ont débuté la saison avec succès, à l'exception de Chelsea, défait 2-0 par Manchester City. Les Blues tenteront de se rattraper ce dimanche face à Wolverhampton. L'affiche du week-end opposera Aston Villa à Arsenal, qui cherchera à prendre sa revanche après deux défaites coûteuses la saison dernière. Dimanche, Arne Slot dirigera son premier match officiel à Anfield contre Brentford.
Escale en Espagne.
Après un nul frustrant à Mallorca, un but partout, le Real Madrid, champion en titre, vise une première victoire au Santiago Bernabéu face à Valladolid avec sa nouvelle recrue Kylian Mbappé en renfort. De son côté, le FC Barcelone, vainqueur à Valence grâce à Lewandowski, reçoit samedi l'Athletic Bilbao de Nico Williams, que le club n'a pas pu recruter.
Cap sur la France.
Lyon doit se racheter après sa lourde défaite à Rennes, 3-0, mais n'aura pas la partie facile avec la réception de Monaco, choc de la deuxième journée de Ligue 1 samedi, alors que le PSG et l'OM effectue leur grand début à domicile après une entame de championnat très solide. Au Parquet des Princes, Randal Kolo Muani en quête de rédemption pour être titularisé contre Montpellier ce vendredi. De son côté, l'OM a battu un record avec 49 000 abonnements pour la saison et s'apprête à affronter Reims au Vélodrome dimanche, fort de sa victoire prometteuse à Brest, 5-1.
Page de sport VO Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a accepté l'investiture de son parti à la vice-présidence lors de la troisième journée de la Convention nationale du Parti démocrate. Le correspondant de la VOA dans le Midwest, Ken Farabao, nous en dit plus depuis Chicago. Le récit, Gabi Dorsil.
Lors de l'ouverture de la troisième journée de la Convention nationale des démocrates à Chicago, le sénateur Cory Booker du New Jersey a présenté le thème de la soirée.
Bienvenue à la troisième nuit. Et ce soir, c'est la liberté qui est à l'honneur.
Si certains programmes ont permis aux orateurs d'aborder des sujets tels que les droits de la reproduction, les questions environnementales et la sécurité des frontières, la plupart des messages étaient axés sur ce que les démocrates considèrent comme le choix à faire lors des élections de novembre.
Kamala Harris pour le peuple. L'autre gars qui a prouvé encore plus que la première fois qu'il s'agit de moi et personne d'autre.
L'ancien président Bill Clinton était l'un des orateurs les plus attendus de la soirée. Clinton, qui a participé à toutes les conventions des démocrates depuis 1972, s'est inspiré de sa propre expérience à la Maison-Blanche pour expliquer pourquoi il pense que la vice-présidente Kamala Harris est le meilleur choix pour la présidence.
Kamala Harris s'efforcera de résoudre nos problèmes, de saisir nos opportunités, d'apaiser nos craintes et de veiller à ce que chaque Américain, quel que soit son vote, ait la possibilité de réaliser ses rêves.
Mais le moment clé pour les démocrates a été le discours du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, investi par son parti à la vice-présidence.
C'est l'honneur de ma vie d'accepter votre nomination à la vice-présidence des États-Unis.
Pour de nombreuses personnes présentes dans la salle et pour celles qui suivent la convention dans tout le pays, le discours de Walz a été une sorte de présentation.
J'ai grandi à Butte, dans le Nebraska, une ville de 400 habitants. J'avais 24 enfants dans ma classe au lycée et aucun d'entre eux n'est allé à Yale. Mais je vais vous dire, en grandissant dans une petite ville comme celle-là, vous apprenez à prendre soin les uns des autres.
Walz, ancien militaire, ancien enseignant et entraîneur de football et de basketball dans un lycée américain, a souligné comment ces éléments de sa biographie personnelle l'ont préparé à une vie politique.
Ce sont ces joueurs et mes élèves qui m'ont incité à me présenter au Congrès. Ils ont vu en moi ce que j'espérais leur inculquer, un engagement pour le bien commun, une compréhension du fait que nous sommes tous dans le même bateau et la conviction qu'une seule personne peut faire une réelle différence pour ses voisins.
En tant que dernier orateur, Walz a ponctué le thème de la soirée, la liberté.
Mais quand nous, les démocrates, parlons de liberté, nous voulons dire la liberté de construire une meilleure vie pour vous-même.
Les démocrates vont conclure cette convention ce soir avec le moment le plus marquant, le discours d'acceptation de la candidate du parti, la vice-présidente Kamala Harris.
En marge de la convention démocrate à Chicago, les délégations africaines participent à des séminaires. Parmi les participants, l'un des principaux leaders de l'opposition congolaise, Martin Fayulu. Il explique l'importance d'être à la Convention démocrate et les enseignements tirés pour les jeunes démocraties africaines. Les détails avec nos envoyés spéciaux Dili Diko et Trésor Matondo.
Venu à Chicago pour prendre part à la Convention démocrate, l'opposant congolais Martin Fayulu a expliqué pourquoi il est important pour lui et d'autres pays africains de participer à cet événement.
Je suis venu ici pour voir d'abord comment la démocratie marche, comment on tient une convention, comment les gens discutent et pour que nous aussi au Congo, qu'on puisse faire la même chose. Peut-être pas la même chose exactement, mais au moins les bases de la démocratie sont les mêmes. Adapter ce qu'on peut adapter, bien sûr, selon notre contexte. Je suis venu ici surtout pour dire aux Américains qui sont les champions de la démocratie, au Parti démocrate, que la démocratie doit être la même partout dans le monde, et non ce qu'on appelle le double standard. Donc, si ici, ils disent qu'un monsieur, une dame, un vote, donc une fois, et ça doit être la même chose, et que celui qui a gagné, c'est lui qui doit réellement être proclamé vainqueur, et non de faire comme chez nous, vous avez les élections, il y a un vainqueur, on proclame quelqu'un d'autre, et que eux, les Américains, les Occidentaux, disent que, bon, voilà, nous avons pris note.
Martin Fayoulou a ajouté qu'il attend des États-Unis plus d'aide pour renforcer les institutions et la démocratie et un échange accru de bons procédés. Au sujet de l'état de la démocratie congolaise, l'opposant n'a pas mâché ses mots.
Au Congo, c'est ça le problème. Le pays souffre. Nous souffrons tous. Nos institutions ne sont pas démocratiques. Nos institutions ne sont pas des institutions mises en place par la population. Et donc, pour cela, il faudrait que nous nous aidions nous-mêmes, mais aussi que le monde entier puisse aider nos pays.
Le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 estime que pour changer la situation, il faut la participation de tous. Il a dit repartir avec beaucoup d'enseignements.
Ce que j'ai appris, c'est que il faut faire participer tout le monde. La démocratie, c'est que qu'est-ce que le peuple veut, qu'est-ce que chaque citoyen veut, et les partis communiquent à ses citoyens son programme, ce qu'il veut faire pour demander son suffrage. J'ai appris beaucoup de choses dans les techniques de sondage. J'ai vu comment ils font des sondages ici, des bons sondages, pas des sondages triqués, dans l'interaction avec les médias, j'ai vu, et donc j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
L'opposant a fait savoir que dès son retour, il va continuer à parler pour défendre la démocratie et s'organiser afin que toutes les parties prenantes congolaises politiques et la société civile se réunissent pour parler de l'intégrité territoriale de la RDC et trouver des solutions pour atteindre, selon lui, la légitimité du pouvoir.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Gabon, le 30 août marquera le premier anniversaire des militaires au pouvoir. Le nouveau régime a donné des gages d'ouverture en organisant un dialogue national inclusif, des assises marquées par des recommandations qui doivent être traduites en texte de loi lors du référendum prévu cette fin d'année. Mais que reste-t-il des engagements pris par le CTRI, notamment le transfert du pouvoir au civil à l'issue de 2 ans de transition? Élément de réponse dans ce reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Un an après avoir renversé Ali Bongo Ondimba, la junta de la transition reste un sujet de préoccupation à Libreville. Cadre d'entreprise, Firmin pense que le pouvoir militaire ne respecte plus ses promesses de renouveau.
Nous constatons pour déplorer qu'ils ne s'appesantissent pas sur le mobile de leur appellation, c'est-à-dire que comité de transition pour la restauration des institutions. Il y a encore des dérives que nous constatons dans nos institutions et c'est dommage qu'après un an, nous soyons encore à retrouver les mêmes comportements.
Parmi les motifs d'inquiétude des frondeurs de l'actuel pouvoir, la restriction des critères d'éligibilité à la future présidentielle combinée à la suspension des partis politiques. Ces mesures, contenues dans les recommandations du dialogue national, sont plutôt saluées par Christopher, fervent soutien du président Oligui Nguema.
Moi je pense qu'il a très bien agi parce qu'il a juste suspendu le parti politique, mais ceux qui ont fait, les membres du parti politique, je crois qu'ils sont même d'attache encore dans le gouvernement actuel, ils ont déjà quelque chose à accomplir pour pouvoir se racheter.
3 mois après les assises post-coup d'État, la mise en œuvre des réformes institutionnelles piétine. Pour Jean Martin, tout ceci n'aura aucun péril sur l'agenda de la transition.
Derrière, il y a des efforts qui sont faits pour la jeunesse, sous le plan de vue de l'emploi, pour nos parents retraités qui aujourd'hui ne revendiquent plus leur pension, qui passent normalement chaque mois.
Entre réception onéreuse, lancement des chantiers et travaux d'Hercule, diabolisation du régime déchu, pour beaucoup, presque Clotaire Oligui-Nguema n'a pas fini de surprendre.
Si on part sur la base que si c'était pour la restitution des institutions, on voit qu'il s'attaque à beaucoup de nouveaux chantiers. Bon, c'est peut-être pas pour ça qu'ils avaient commencé leur boulot.
Libération de plusieurs prisonniers de droits communs et politiques, formation d'un gouvernement composé de militaires et civils. Au lendemain de sa prise de pouvoir, le général président Oligui Nguema avait pourtant envoyé des gages d'apaisement à la communauté internationale, des signes d'ouverture à l'origine de la levée des sanctions d'instances régionales contre le Gabon. Aujourd'hui, les petits sont coincés entre les demandes populaires de justice et la nécessité de préserver une image de respectabilité. Mais la crainte d'une confiscation du pouvoir par le CTRI l'emporte sur le fureur du coup d'État du 30 août 2023. Ismaël Obianzé pour VO Afrique, Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
À Nairobi, dans la capitale kényane, un nouveau restaurant fait parler de lui, non seulement pour ses plats, mais aussi pour son personnel. Des robots qui servent les plats sont la principale attraction des clients qui se pressent au Robot Café. De Nairobi, le reportage de Juma Bajanga, le récit de Michel Joseph.
C'est l'heure du déjeuner au Robot Café dans la banlieue de Kileleshwa, à Nairobi, et une serveuse inhabituelle suscite l'enthousiasme.
Thank you, Nadia.
Nadia est l'un des trois robots serveurs incorporés ici pour améliorer la prestation de service. Une première en Afrique de l'Est.
Vous leur assignez des tâches le matin comme à des serveurs normaux. Vous leur dites à quelle table un robot particulier est censé se rendre et ce qu'il est censé y faire. Car, par exemple, il ne se contente pas de servir. Il chante des anniversaires. Par exemple, si vous réservez une table et que vous faites votre anniversaire, le robot vous livrera votre gâteau avec le message et tout le reste. Et vous chantera aussi un joyeux anniversaire sur fond de serveuse.
L'utilisation de la technologie robot dans le secteur de la restauration n'est pas nouvelle. Des restaurants dotés de serveurs robotisés ont ouvert leurs portes aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays. Mais le concept est nouveau en Afrique. Depuis son ouverture à Nairobi il y a 2 mois, le personnel du Robot Café affirme que l'accueil est bon, les robots étant l'attraction de clients comme Birouk Abetu, qui est ici aujourd'hui avec sa famille pour le déjeuner.
J'étais très heureux de montrer cela à mes enfants en Afrique, dans notre propre jardin. Alors oui, c'était très bien. On peut voir que ça a besoin d'un peu de développement, mais c'est vraiment sympa la façon dont les robots prennent la nourriture, ils viennent et vous servent. Lors de ma prochaine visite, j'aimerais que les robots soient plus interactifs, qu'ils prennent vos commandes, qu'ils vous apportent votre nourriture. Mais c'est un très bon premier pas.
Selon les données du gouvernement, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est l'une des principales sources d'emploi au Kenya. L'introduction de robots dans le secteur fait craindre que les machines ne mettent les gens au chômage. Toutefois, des experts du secteur comme Idis Odwang estiment qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer car la technologie servira simplement d'outil pour améliorer l'efficacité et la qualité de la prestation de service.
Je ne pense vraiment pas qu'elle puisse éliminer progressivement l'ensemble du travail humain, mais elle sera incorporée comme nous avons incorporé les autres technologies auparavant et les avons utilisées pour améliorer notre labeur humain et travailler ensemble.
Odwang conseille aux écoles kenyanes d'intégrer la formation aux technologies dans leur programme d'enseignement de l'hôtellerie afin de se préparer à ce changement. Selon les experts, l'ère des restaurants automatisés a enfin commencé en Afrique et les convives doivent s'attendre à une plus grande intégration des robots dans leur expérience culinaire.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.